juste une présentation rapide pour vous, Mathilde Poineau. Donc, le projet Lyon-Turin que vous avez ici avec l'ensemble des tunnels, donc c'est bien sûr un tunnel de base entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse, deux fois 57,5 km. Donc, il y a deux tubes et c'est 115 km qu'il faut creuser. Aujourd'hui, il en a été creusé à titre exploratoire 9 km. Et donc, ce coup n'est pas parti, je vais y revenir sur le rapport du CEI. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres tunnels à creuser, et donc, il ne faut pas croire que les tunnels, on l'a vu sur la question de l'eau, mais il y a également tous les matériaux d'extraction qu'il faut répartir partout. Ce sont des matériaux inertes, voire polluants, quand les roches sont elles-mêmes porteuses de matériaux polluants. Et donc ça, il va falloir les stocker. La Maurienne est incapable, bien évidemment, de les accueillir toutes, sauf à boucher avec. Et donc, les impacts environnementaux, rien que du dépôt des matériaux, sont bien plus larges que le simple périmètre de l'enquête d'utilité publique. Et là, ça pose déjà un vrai problème. Je précise, mais Gabriel Amar a retrouvé dans les forêts de l'Ain des étiquettes marquées TELT sur les big bags qui avaient été déposés jusque dans l'Ain, mais pas du tout sur le périmètre du Lyon-Turin.
C'était une enrichie.
Donc, il se trouve que l'actualité de votre venue à tous les trois, c'est la déclaration d'Elisabeth Borne hier sur la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Donc, je voudrais vous en dire quelques mots. Ce rapport, il faut le lire à la lumière du rapport précédent du Conseil d'orientation des infrastructures, c'est-à-dire celui qui a été remis à Elisabeth Borne lorsqu'elle était ministre des Transports le 1er février 2018. Et ce rapport disait trois choses essentielles. La première, c'est nous ne nous occupons pas du tunnel transfrontalier parce que ça ne rentre pas dans notre périmètre national. La deuxième chose, donc ils n'en ont pas parlé du tout. La deuxième chose, c'était de dire, sur les accès, il ne nous a pas été rapporté la preuve de l'urgence de réaliser ces travaux, les accès ayant des caractéristiques socio-économiques clairement défavorables. Et donc, il n'y a pas lieu d'engager des études avant 10 ou 15 ans et probablement pas avant 2038. Et on ne parlait que d'études. Le deuxième point, le troisième point que donnait ce rapport en 2018, que Madame la ministre des Transports avait dit « je suivrai à la lettre », c'était « on peut utiliser la voie existante, il faut faire des aménagements complémentaires dessus, mais on peut utiliser la voie ferroviaire existante pour reporter les marchandises de la route vers le rail, et ça, dès maintenant ». Et en conclusion, il y avait un tableau des financements jusqu'à 2035 que proposait le Conseil d'orientation des infrastructures. Et le mot Lyon-Turin, l'expression Lyon-Turin, n'apparaît dans aucun des scénarios. Ni le scénario 1, ni le 2, ni le 3. Ce qui montre bien que ce Conseil en 2018 dit pas un centime pour les accès au Lyon-Turin. En 2023, le Conseil d'orientation des infrastructures n'a pas auditionné les parties prenantes. Même pas les membres permanents du CNTE que sont les Amis de la Terre, alors que nous avions fait une demande écrite d'audition. Ce qui pose déjà un vrai problème sur la méthode de travail. La deuxième chose, c'est que ce conseil d'orientation va déclarer que le tunnel de base entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse est un coup parti, sans pourtant justifier cette expression. Et en fait, il valide une soi-disant irréversibilité qui n'est pas du tout justifiée dans leur rapport. Et ensuite, ils vont nous expliquer que finalement, les accès existants, la ligne existante est bien utilisable, mais qu'il faut la considérer dans l'objectif et l'optique de l'ouverture du tunnel transfrontalier Lyon-Turin, alors que le précédent rapport disait « on peut le faire tout de suite ». Donc il y a vraiment une régression sur ce rapport, et la seule chose que l'on peut dire, c'est que Mme Borne, plutôt que nous annoncer 100 milliards d'euros pour le ferroviaire aujourd'hui, à notre sens, avec tous les moyens de 2017 jusqu'à 2020, où elle était ministre des Transports, puis ministre de tutelle du ministère des Transports, puisqu'elle a remplacé François de Rugy au ministère de la Transition écologique, avait tout moyen pour lancer l'intermodalité, et notamment dans les Alpes, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, avoir un plan jusqu'à 2040 qui ne parle pas de l'intermodalité tout de suite et maintenant, c'est quelque chose d'important qu'il fallait noter, et je voulais vous le dire. Alors, Pour notre part, nous opposants, nous sommes dans une logique, et ça depuis de longues années, de faire des propositions de l'utilisation de la voie existante et de le démontrer. Cette voie existante, elle était utilisée dans les années 80 et dans les années 2000. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont tous les rapports des conseils généraux des ponts et chaussées, à hauteur de 100 trains de fret par jour, 50 par sens, plus 28 trains de voyageurs, 14 par sens. Aujourd'hui, il ne circule plus entre la France et l'Italie que 26 trains par jour en moyenne, alors qu'on a dépensé 1 milliard d'euros pendant une vingtaine d'années, depuis 2002 jusqu'à 2012, on a mis environ 1 milliard d'euros sur l'ensemble de la ligne. Et donc déjà, il y a une incompréhension totale, c'est comment peut-on être au quart de l'utilisation de cette voie alors que l'on a mis 1 milliard d'euros pour la moderniser et que tous les travaux disaient on fait ces travaux bien évidemment pour améliorer la capacité. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des travaux pendant les assises de la mobilité et que, y compris la directrice du fret SNCF, Madame Sylvie Charles, a reconnu le 3 mai 2018 devant la ministre des Transports lors des assises de la mobilité qu'il était possible effectivement sur la ligne existante de faire circuler 100 trains de fret par jour en moyenne 50 dans chaque sens avec des infrastructures existantes. Et nous, ce que nous disons, bah, c'est simplement, ok, si on peut passer 100 trains de fret aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en camion en moins sur la route ? Et c'est assez facile à calculer, il y a des contraintes sur cette voie, bien évidemment, elle monte, elle descend. Mais si les montagnes étaient un problème pour pouvoir faire du fret ferroviaire en France, alors on aurait un fret ferroviaire florissant sur tout le territoire de la France, qui est à 70% en plaine, et notamment entre Perpignan et Rungis, alors qu'ils ont arrêté les lignes. Et nous nous disons, bien sûr qu'il est possible de faire circuler ces 100 trains par jour, et le calcul est simple. Un train, selon les contraintes de 550 mètres, etc., je vous passe les détails techniques, peut reporter l'équivalent de 30 conteneurs. Si l'on fait 100 trains par jour avec 30 conteneurs dessus, c'est donc 30 semi-remorques par jour en moins qui sont sur la route dans les deux sens. Si on fait 100 trains par 30 conteneurs, c'est 3000 niveau CE2, CM1. Si on prend ça sur 300 jours, ça fait 900 000 poids lourds de moins sur la route dans les Alpes, tout de suite et maintenant. N'importe quel gosse de CE2, CM1 sait le calculer, c'est des plus, des moins, des multipliés, des divisés. C'est au programme de l'école primaire. Je pense que les polytechniciens, ingénieurs des ponts et chaussées, sont capables de le calculer comme nous. Et donc, la chose est parfaitement limpide, d'autant que l'on a parlé de 300 jours, mais je rappelle pour les astrologues qu'il y en a 365 dans l'année. Donc on a encore 65 jours pour faire pique-nique si on a besoin. Et donc nous avons démontré ça, la ligne est existante et de fait, le Conseil d'orientation des infrastructures en 2018 qui nous a auditionnés a validé la totalité de ce raisonnement, comme d'ailleurs la SNCF d'une certaine manière, en dégradant un petit peu les chiffres parce qu'il ne fallait pas trop nous donner raison, mais ils reconnaissent qu'il y a effectivement encore la capacité de faire passer 80 trains, y compris dans la cluse de Chambéry. On nous accuse, et à l'instant sur Twitter, d'être les promoteurs du trafic routier de marchandises et d'être à la solde des industries fossiles. Je voudrais répondre devant vous là-dessus et vous donner quelques arguments que vous pourriez peut-être prendre dans vos argumentaires également. Premièrement, avec la Fédération nationale des transporteurs routiers, les Amis de la Terre ont demandé à une ministre des Transports qui s'appelait Elisabeth Borne que soit mise en œuvre et mise en service des navettes ferroviaires en février 2019. Madame Elisabeth Borne, à l'époque, n'avait pas le temps dans son agenda pour recevoir ni les transporteurs routiers qui demandaient à prendre le train. Et il faut expliquer pourquoi ils voulaient prendre le train. C'est que la voie ferroviaire, selon la Direction générale des mobilités de l'Union européenne, la Digimove, est 30% moins chère que la voie routière. Pour une raison très simple, c'est que bien que beaucoup de personnes aient réclamé l'écotaxe, pensant que l'écotaxe était un tour de magie et une baguette magique pour faire reporter les marchandises de la route vers le rail, en fait l'écotaxe nous l'avons déjà ici. Ça s'appelle le péage du tunnel routier du Fréjus, le péage du tunnel routier du Mont-Blanc, qui valent 600 euros l'aller-retour. Et rien que le péage, c'est pas nous qui le disons, c'est M. Michel Bouvard, ancien député de cette circonscription, ancien sénateur, avec M. Destaux, ancien maire de Grenoble et député PS de Grenoble, tous les deux des partisans du Lyon-Turin à fond. Ils disent qu'effectivement, du fait de nos péages, nous avons des tarifications qui sont identiques, voire supérieures à celles de la Suisse avec leur taxe à l'essieu sur leurs autoroutes. Par conséquent, oui, tous les éléments permettent de dire que nous pouvons utiliser la voie existante. Certes, il faut rajouter sans doute quelques installations, mais nous pouvons le faire tout de suite et maintenant, et on peut sortir tout de suite les deux tiers, voire les trois quarts des poids lourds qui circulent dans nos vallées. Pour terminer, je vous dirai, je pense que de votre poste de député et de parlementaire, vous avez la possibilité de le faire valoir. Aujourd'hui, le tunnel routier du Mont-Blanc distribue 20 millions d'euros de subventions chaque année à un fonds pour l'intermodalité qui, depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis 2012, ne les utilise que pour subventionner la route au tunnel du Fréjus. Et donc, aujourd'hui, au nom de l'intermodalité, et par un détournement de mission et de fonction de ce fonds pour l'intermodalité, la route du Mont-Blanc, c'est-à-dire la pollution du transport routier de marchandises au Mont-Blanc, finance la possibilité de doubler le tunnel routier du Fréjus et la pollution de la vallée de la Maurienne et de la Cluse de Chambéry et de tous les axes routiers grâce à 20 millions chaque année. Donc aujourd'hui, ils ont distribué en fraude, à mon sens, plus de 200 millions d'euros qui devaient aller au train, qui devaient aller à l'intermodalité, qui sont allés de la route vers la route, de la pollution, pour favoriser la pollution. Et j'en terminerai avec un dernier point, je ne sais pas si je suis dans le délai.
Oui.
Le dernier point, c'est qu'il a été ouvert, une galerie de sécurité en doublement de la voie de circulation au tunnel du Fréjus. Cette galerie de sécurité a effectivement été creusée pour une raison très précise, c'est qu'il y a une directive européenne de 2004 qui s'applique à tous les États membres depuis 2006, puisque c'est une directive. Cette directive dit pour tous les tunnels de plus de 500 mètres, il doit y avoir une galerie de sécurité. Cette galerie de sécurité a été présentée à l'enquête d'utilité publique en Maurienne et Vivre et Agir en Maurienne et bien d'autres associations environnementales, France Nature et Environnement, etc., ont attaqué en disant « vous vous moquez de nous ». Cette galerie de sécurité est en fait une galerie de circulation. Le préfet a répondu « mais non, vous n'en rapportez pas la preuve ». Et le tribunal administratif en 2012 a rendu sa décision en disant « mais non, vous n'en rapportez pas la preuve ». Donc, c'est bien une galerie de sécurité. 2012, avril 2012, la décision. En juin 2012, une convention est réglée pour 50 ans afin de transférer les 20 millions d'euros de bénéfices du tunnel du Mont-Blanc sur le tunnel routier du Fréjus, en fait, le financement du creusement de la galerie de sécurité. Et le 3 décembre 2012, 6 mois après seulement, le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, va décider avec son homologue italien que finalement, il ouvre à la circulation. Monsieur Cuvillier, au titre de la Constitution et au titre de son décret d'attribution des missions ministérielles, n'avait pas le droit de prendre une décision réglementaire. La deuxième chose, c'est que M. Cuvillier, comme ministre délégué chargé des transports, n'a pas le droit d'engager la France dans un accord international. Seul le président de la République peut le faire au titre de la Constitution. Eh bien, nous attaquons cette décision. Tous ceux qui nous expliquent que le Lyon-Turin, oulala, il nous le faut pour sortir les camions, se taisent sur cette ouverture à la circulation. J'ai moi-même demandé à des élus des collectivités locales et territoriales de se joindre à un recours au Conseil d'État. Ils n'ont pas répondu. Et donc, je pense que vous le savez, le mot politique se conjugue avec le verbe dire et non pas avec le verbe faire et non pas avec le verbe dire. Et nous avons fait ce recours. Et nous avons eu une réponse. Il n'y a pas de possibilité de recours contre cette escroquerie politique de dire que c'est une galerie de circulation et 6 mois après un jugement du tribunal administratif, considérer que finalement c'est une galerie de circulation. Et là, tout le monde se tait et certainement pas les partisans du Lyon-Turin, eux, ne prennent pas de position. je finirai pour vous dire, puisque vous faites de la politique, que je constate simplement une chose, c'est que tous les partisans du projet Lyon-Turin sont les mêmes que ceux qui étaient partisans du projet Notre-Dame-des-Landes, qu'ils ne viennent pas nous faire de leçons écologiques. Merci.